le projet de canal Seine-Nord-Europe doit relier Auban-Chélobac près de Cambrai et Compiègne. Long de 107 km, il deviendrait le maillon central d'un réseau fluvial à grand gabarit entre l'Île-de-France et l'Europe du Nord. Avec près de 2500 hectares d'emprise agricole, 35 millions de mètres cubes d'eau prélevée, 78 millions de mètres cubes de déblais prévus, pour un coût aujourd'hui réévalué à plus de 10 milliards d'euros, sa construction engage des travaux d'infrastructures pharaoniques. À ce titre, il est parfois qualifié de chantier du siècle. Du 9 au 12 juillet, un village militant éphémère s'est installé à Villers-aux-Tertres, entre Douai et Cambrai, pour protester contre la construction du canal Seine-Nord-Europe. Une mobilisation d'envergure nationale avec des tables rondes, une balade à vélo, des concerts et une manifestation à pied et sur l'eau. Nous y avons mené une série d'interviews pour comprendre les différents aspects du projet de canal. Nous retrouvons Louise du collectif Méga Canal Non Merci qui nous donne son point de vue sur l'alimentation en eau du canal. Comment le canal il va être alimenté en eau? Parce que ça représente des millions, j'imagine, des dizaines de millions de mètres cubes d'eau qui doivent être prélevés quelque part et en plus renouvelés. Comment ça va fonctionner ça?
Si je regarde les prévisions de Météo France et des experts du GIEC sur les prochaines années, je ne sais pas non plus comment ils envisageraient de remplir le canal sans qu'on ait plus d'eau à boire dans nos robinets ou que les agriculteurs ne puissent plus arroser leurs champs. Ça fait partie des hypothèses où on ne sait pas bien s'ils sont incompétents ou s'ils mentent. La question de l'alimentation en eau, ils prétendent qu'ils vont pomper dans l'Oise en hiver, au moment où le débit d'étiage, donc ça veut dire le volume d'eau qui s'écoule dans la rivière, est au plus haut, pour aller remplir un bassin de rétention, donc nous on appelle ça une gigabassine, du côté d'Alène, près de Péronne, pour stocker suffisamment d'eau pour alimenter le canal pendant toute l'année, même aux périodes de sécheresse. Les volumes qu'ils envisagent de prélever, c'est plus de 30 millions de mètres cubes d'eau, c'est des volumes absolument immenses. Et dans leur conception, dans leur explication, on a l'impression qu'ils considèrent l'Oise comme un canal, comme un genre de toboggan fermé d'eau, et que c'est complètement distinct des poches souterraines que sont les nappes phréatiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose à bien comprendre pour comprendre l'ampleur de l'enjeu. C'est que les rivières, ce sont des résurgences de nappes phréatiques. Donc en fait, les rivières et les nappes phréatiques sont en contact. Si une rivière a un volume important, que la rivière monte, ça veut dire que les nappes aux abords de cette rivière sont aussi en train de monter. Et si là, tout d'un coup, on pompe un énorme volume d'eau dans la rivière, ça veut dire que la surface de l'eau va baisser et qu'en fait ça va drainer la nappe. Donc techniquement, si on pompe une rivière en hiver pour remplir une bassine, on est en train de pomper en quelque sorte aussi, on est aussi en train de baisser le niveau de la nappe phréatique. Et en termes de résilience, si on regarde déjà ce qui nous arrive aujourd'hui et les prévisions de pluie sur les prochaines années, on se pose des grosses questions sur la capacité de rechargement des nappes. Et donc, c'est une chose qu'il pleuve très peu en été, ou alors des grosses pluies qui du coup ruissellent et ne s'infiltrent pas bien. Mais si on commence le printemps avec une nappe qui est déjà affaiblie par rapport à ce qu'elle aurait pu être parce qu'on a pompé la rivière et donc on a drainé la nappe, à la fin, toutes les faibles pluies qu'il va y avoir en printemps et en été ne vont pas recharger suffisamment la nappe pour pouvoir alimenter nos besoins en fait, d'eau potable et d'irrigation pour l'agriculture. Se pose du coup la question, est-ce qu'on arriverait à dire non, là en fait on arrête de pomper même dans l'Oise parce que ça va diminuer trop le niveau de la nappe et que là, on ne va pas être en capacité de répondre aux besoins tout le long de l'année. Et si on considère que la bassine est remplie, est-ce qu'on aura une démocratie suffisamment fonctionnelle pour décider que l'eau qui est déjà pompée, qui est là, elle ira plutôt à l'agriculture et à l'eau potable que pour le transport de porte-conteneurs, quoi. La question se pose, et si je dois moi y répondre personnellement, je n'ai absolument aucune confiance que nos intérêts collectifs se soient rendus prioritaires par rapport aux intérêts du capital.
Est-ce que la société du canal a fait des études d'impact hydrologique sur, globalement, en pompant à telle période autant d'eau, comment vont réagir les milieux aquatiques environnants ?
Alors, il y a des études qui ont été faites. Il y a notamment les syndicats de rivières qui ont pu annoncer quels seraient potentiellement les impacts. On n'a pas de chiffres très précis. Et ça, c'est un gros enjeu. C'est qu'on a très, très peu accès à ces données, de savoir, de prendre des modélisations, etc. Mais sachant que les modélisations de la Société du Canal se basent sur des croissances constantes des modélisations. Donc les modélisations qu'ils avaient faites en 2016, qui estimaient la croissance en 2025, se sont avérées fausses. Là, on a suffisamment de recul pour montrer que leurs estimations étaient fausses. Donc on n'a pas vraiment confiance non plus sur le fait que leurs estimations de pluie et de données climatiques soit suffisamment basé sur des scénarios pas très optimistes du GIEC qui, aujourd'hui on le voit, se réalisent. Et vraiment la question c'est, à un moment, peu importe les simulations, si on continue ce projet et qu'on va jusqu'au bout et qu'il y a une pompe qui est installée et qu'il faut décider s'ils ont le droit de pomper ou pas, qu'est-ce qui nous assure qu'ils ils pomperont pas, quoi ?
De la même manière, est-ce qu'ils ont tenter de mesurer, parce que c'est une chose que de savoir qu'on va pomper autant de litres d'eau aujourd'hui ou de l'avoir mesuré en 2016 et de se dire qu'on va devoir pomper certainement de manière régulière dans un contexte de réchauffement climatique, c'est-à-dire de pomper de l'eau, je ne sais pas, à 10 ou 20 ans avec peut-être une raréfaction de la ressource en eau. Ils ont anticipé ce genre de conditions ?
Non, leurs estimations aujourd'hui, elles se basent uniquement sur des données actuelles, sur des données d'aujourd'hui. Ils ont prévu effectivement le côté et l'aspect qu'ils devront pomper plus qu'ils devront pomper chaque année pour remplir la bassine, parce que ils vont forcément utiliser l'eau. Mais ils ont estimé aussi les pertes de la bassine par évaporation. Mais sur des données qui sont d'aujourd'hui, quoi, sur des montants d'aujourd'hui. Donc c'est sûr que si demain on a encore des étés comme ce qu'on a aujourd'hui, où ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas eu de pluie, qu'on a des températures caniculaires à peu près toutes les deux semaines, et que dans 10 ans ce sera potentiellement pire, tout ça c'est pas calculé, c'est pas estimé. Et si le canal a besoin de plus d'eau, les agriculteurs ils en auront besoin de plus aussi. S'ils ne changent pas leur pratique, d'autant plus.
Sur la question des conflits d'usage, est-ce qu'il y a des garde-fous qui ont été mis quelque part, qui garantissent que la population soit prioritaire sur les ressources en eau, que l'agriculture soit prioritaire ? Parce que j'imagine que l'agriculture aussi va faire du lobbying, par exemple, pour garantir ses intérêts.
Pour l'instant, il y a très peu de garde-fous qui sont mis en place. Alors si, il y a des interdictions de pompage, typiquement pour les agriculteurs. Les agriculteurs, le volume qui pompent, les horaires auxquels ils peuvent arroser leurs champs, etc. Tout ça, ils ont des arrêtés qui les contraint dans certaines mesures. Par contre, des mesures contre des équipements industriels, ça pour l'instant on n'en a pas vu.